cinema!
Ma chi è questo?
Nel momento.
Un cinema qui toujours innove, qui expérimente et qui soit le reflet de son temps.
CD as a character within the movie. Now would it
say? Vous tournez très vite, je crois. En général, assez vite, oui. Mais moi, je trouve pas. Je trouve que les autres, ils tournent assez lentement.
Cinema! Cinema! Oui, je sors dans ma chambre! Cinema! Cinema!
Vous écoutez La Grenouille sur les 3-8 de la bande FM ou sur radiogrenouille.com. Radio Grenouille est en direct du Théâtre National de Marseille La Criée depuis mercredi dernier jusqu'à ce soir. Une émission, le Feed Mag, qui va se dérouler jusqu'à 19h, où à chaque fois on a accueilli depuis mercredi dernier des réalisateurs et des acteurs de ce Feed Marseille Festival de Cinéma, donc qui se clôturera ce soir par la remise des prix, par la projection du film Violeta Seme a los cielos d'Andrés Wood, et certainement par la visite de la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, qui est prévue à 21h30, donc pour cette cérémonie de clôture de la 23e édition du Film Marseille. Alors ce soir, nous allons parler d'un film qui s'appelle La richesse du loup, réalisé par Damien Audoul avec Marie-Ève Nadeau. On a Marie-Ève Nadeau avec nous. Damien Audoul n'a pas pu participer à cette émission. On s'entretiendra donc avec elle de ce film qui est un film en fait où Marie, une femme qui a une relation amoureuse avec un homme qui s'appelle Olaf, est confrontée à la disparition de cet homme-là. Cet homme lui a laissé une centaine de cassettes vidéo et des carnets de notes, et elle va se plonger dans ces cassettes vidéo et ces carnets de notes pour essayer de comprendre cette disparition. La richesse du loup, donc, qui était projetée avant-hier et hier au Film Marseille, dans cette 23e édition, et dont on parlera tout au long de l'heure, de ce Film Mag, un Film Mag qui accueillera, comme à son habitude, de nombreuses chroniques. On entendra Laure, qui est allé à la compagnie rencontrer Paul-Emmanuel Audin autour de l'exposition Mir Muraté. Claire nous parlera du film 74 qu'elle a vu aujourd'hui. Les cinébé nous feront un petit palmarès des films qu'ils ont préférés pendant ces 6 jours de festival. Julien, lui, a rencontré Fabienne du Feed Lab qui parlera du film de Tsai-Ming Liang, Nos Formes, dont Thomas, qui sera également là ce soir pour une chronique de cinéma asiatique, nous avait parlé il y a quelques jours. Donc Fabienne Maurice nous dira quelques mots. Julien met en scène en fait les propos des programmateurs sur les films. Donc Marie-Ève Nadeau, merci beaucoup d'être avec nous, de participer à cette émission. Alors Damien Audoul n'a pas pu nous rejoindre, il est où?
Ben, il a dû partir pour travailler sur un autre projet, donc voilà. Je vais essayer de répondre au mieux à vos questions.
Vous êtes comédienne dans ce film, La richesse du loup.
Dans ce film uniquement.
Je crois aussi dans Le reste du monde.
Oui, mais je ne suis pas comédienne de métier, c'est ce que je veux dire.
Le reste du monde, on en parlera tout à l'heure, c'est un film de Damien Audoul qui sera projeté sur Arte en décembre prochain et qui après connaîtra une sortie salle, son dernier film donc. Et donc comment vous êtes devenue actrice, comment vous avez rencontré Damien Audoul et comment il vous a transformé en actrice pour ces films?
En fait, je ne pense pas que c'est une transformation. Damien Audoul et moi, on s'est rencontrés il y a à peu près 2 ans. Et nos sensibilités connectent ensemble. Et donc, il y avait ce projet il y a 2 ans du reste du monde. Et il m'a demandé si j'avais envie de jouer le personnage principal. Comme je ne suis pas actrice, j'ai hésité parce que je ne savais pas si j'avais la capacité pour. Mais comme c'était un rôle qui me touchait, ben, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure avec lui.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous touchait dans ce rôle?
C'est une femme, qui est assez solitaire. C'est une femme qui a vécu quelques drames auxquels je pouvais m'identifier. Et aussi, elle, c'est son approche. Bon, dans le film, le personnage est professeur pour enfants sourds, hein, et donc son rapport aux gens un peu en marge.
Dans le film Le Reste du Monde, là.
Dans le film Le Reste du Monde, oui, tout à fait. Et ensuite, pour La Richesse du Loup, bien, bon, on avait déjà fait la première expérience du Reste du Monde. Et comme je ne suis pas actrice de métier, moi, je travaille plus dans l'art visuel, dans le documentaire aussi. J'étais plus dans l'art contemporain, disons, avant. Et Damien m'a demandé de monter le film avec lui. Donc, il n'était pas question que je joue nécessairement le rôle. Mais ça s'est fait naturellement au fil de nos conversations. Il fallait trouver ce personnage, Marie, parce que Damien avait filmé toutes les images qui composent presque la matière première du film au fil des 7 dernières années. Et on devait filmer les images de Marie et composer la trame dramaturgique narrative du film ensemble. Donc, on a fait beaucoup de discussions, beaucoup de réflexions. Et après, naturellement, je suis devenue Marie.
Alors, quelques mots sur Damien Oudoul, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Depuis 1988, il a écrit et réalisé 10 courts-métrages, 3 documentaires de création et 7 longs-métrages, dont Le Souffle, qui a obtenu un grand prix du jury à la Mostra de Venise en 2001, Morasex, Errance, avec Laetitia Casta et Benoît Magimel, En attendant le déluge, avec Pierre Richard et... Anna Mouglalis, c'est le
prénom. C'est ça,
j'ai eu un doute sur le prénom. L'histoire de Richard O avec Mathieu Amalric. Et il a également un travail d'écriture, de poésie. Et il a monté dernièrement une pièce de théâtre, Méphosti, qui était présentée au Bouffe du Nord en octobre dernier. D'ailleurs, je crois que il y a une rencontre déterminante là avec l'histoire de Richard Roux, avec Mathieu Amalric, parce que je l'ai vu là sur pas mal de projets avec Damien Oudoul.
Oui, ils ont collaboré ensemble sur plusieurs projets, mais je crois que l'un et l'autre se sont apportés beaucoup et peut-être s'apporteront encore. Hein. Et Mathieu, justement, là, il a aidé à la production du film La Richesse du Loup. Donc, depuis plusieurs années, il y a un travail qui se fait entre les deux.
Et Damien Oudoul, en fait, est un autodidacte.
Complet, ouais. Oui. Il a toujours tout appris seul. C'est quelqu'un de curieux, de fonceur. Et je crois que pour lui, c'est important d'expérimenter les choses de façon viscérale. Après, oui, probablement, peut-être les vivre de façon, je pourrais pas dire intellectuelle, parce que c'est quelqu'un vraiment qui vit les choses de manière corporelle. Mais bon, ça n'empêche pas plein de réflexions. Mais il aime faire sa route comme il l'entend. Et qu'on lui dise quoi faire, où aller, comment apprendre, quoi apprendre, c'est pas du tout... Ça fait pas partie de sa vie et de sa vision.
Et comment ça s'est passé, le travail avec lui, alors, sur La Richesse du Loup? C'est pas quelqu'un avec un caractère trempé comme ça, qui est un peu autoritaire?
Non, Damien n'est pas autoritaire, en tout cas pas avec moi. Je pense qu'on a réussi à travailler ensemble parce que justement, c'est un échange sincère. Hein. Et s'il m'a demandé de travailler avec lui, c'est parce que j'imagine qu'il aime ma sensibilité et qu'on se rejoint à un certain niveau. Donc, c'est pas...
Justement, d'après vous, qu'est-ce qui fait votre complicité artistique avec Damien Oudoul?
Déjà, on est très près ensemble dans la vie. Alors, on a une vision qui se rejoint autant... par rapport à la vie en général, je dirais nos valeurs de base, la sincérité, c'est des choses qui nous tiennent à cœur profondément. Et ensuite, sur le travail visuel, pour nous, ce qui est important toujours, c'est le fond et pas nécessairement la forme, hein, même si j'ai dit que je venais de l'art visuel avant, j'ai fait ce parcours. Hein.
Je crois que vous venez aussi du mannequinat et de la danse.
De la danse, j'ai étudié la danse toute mon enfance, une école au Canada qui est un peu comme l'Opéra de Paris, disons. Donc, j'ai fait toute mon enfance en danse. Ensuite, j'ai fait un peu de mannequinat et après, assez rapidement, j'ai fait de l'art visuel. J'ai travaillé pas mal à New York avec Robert Wilson, justement, pendant plusieurs années. Lui, il y a un gros centre à 1h30 de Manhattan qui s'appelle le Watermill Center. Et il y a des artistes d'un peu partout dans le monde qui viennent au Watermill faire des résidences, l'aider à créer ses œuvres futures pour l'année à venir, parce qu'il y a toujours des dizaines de productions. Et lui invite également des artistes pour une grande soirée bénéfice. Donc, j'ai souvent été avec lui dans ses projets. Et donc, pour revenir à Damien et moi, je crois que notre sensibilité, c'est quelque chose qui ne se décrit pas vraiment. C'est quelque chose qu'on ressent. Et lorsqu'on est face à une création, ben, y a une connexion. Et on n'a même pas besoin de se parler. On ressent les choses d'une façon similaire. Ou lorsque c'est différent, mais c'est complémentaire. Puis on peut en discuter, puis ça nous fait avancer.
J'ai vu donc la richesse du loup et puis j'ai vu aussi Errance, là, le film avec Casta et Magimel. Il y a une forte impression qui ressort de ces films-là. C'est une espèce de corps à corps avec la vie, en fait. Un témoignage d'un corps à corps avec la vie, que ce soit dans la violence ou dans la sensualité. C'est un peu une marque de fabrique, ça, non, de Damien Oudoul?
Je ne pense pas qu'il y ait une marque de fabrique. C'est évident qu'il y a des thèmes qui le touchent. On a tous un certain vécu et après, à travers notre vie, nos expériences, c'est des choses qui nous marquent. Donc oui, c'est sûr que toute son œuvre est empreinte de sensualité, de violence et de douceur, hein, parce que je pense que Damien, c'est un être qui porte ces deux pôles très, très fort en lui. J'ai rarement vu quelqu'un qui a autant de douceur et autant de violence à la fois. Après, je crois que de plus en plus, il s'en va vers la douceur, puis il s'en va vers faire quelque chose qui s'en bénéfique pour lui. Mais oui, effectivement, il y a ces thèmes souvent dans son œuvre.
C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans ses poèmes. Alors là, il y avait le film au Film Marseille qui a été projeté hier et avant-hier, mais il y a eu une soirée aussi au CIPM avec les poèmes du milieu, ce qu'il appelle les poèmes du milieu, c'est ça?
Oui, il a fait en fait deux recueils de poèmes du milieu, un qui est les poèmes du milieu de 1 à 39 et un autre de 40 à 88. Le dernier a été publié là, par Archimbault, éditeur, et il fait des lectures de poésie. Parfois, il en a fait une à Avignon avec Mathieu, justement, encore l'année passée.
L'année dernière, oui, au festival.
Ouais, sur France Culture. Et la poésie, pour Damien, je crois que c'est aussi fort que le cinéma. Pour lui, c'est quelque chose où il peut vraiment se livrer entièrement. Et il n'y a pas tant toutes les barrières économiques auxquelles on peut faire face en essayant de monter un film, financière, tout ça. Bon, des fois, c'est compliqué. Alors, dans sa poésie, c'est quelque chose vraiment de profond et de vrai. C'est une poésie qui est assez... quand on la lit, c'est autre chose que d'entendre Damien la lire, parce qu'il la lit de façon très scandée par moments, c'est très musical, c'est plus de l'ordre de la performance. Et je pense que c'est intéressant justement d'avoir accès, comme là justement au CIPM, de pouvoir voir l'auteur lire ses propres poèmes, parce que ça donne une touche tellement plus intime, et je crois que ça donne aussi une porte d'accès à la poésie qui parfois, pour certaines personnes, peut paraître un peu inaccessible, alors que c'est très simple. Dans le fond, la poésie, c'est les émotions, c'est des métaphores même pas des métaphores, c'est, je pense, la beauté pure ou la violence pure, ou c'est la pureté, quoi. C'est ce qui nous atteint directement, sans les filtres ou sans les codes auxquels on fait face tout le temps dans la société.
Alors, le CIPM, c'est un des endroits autres que le Théâtre National de Marseille, La Criée, où se déroule le FIL de Marseille, la 23e édition. Il y a plusieurs lieux comme ça que Laure explore depuis le début de ce festival. Et nous allons écouter sa nouvelle chronique qui se déroule à la compagnie Abelsens. Bonsoir, Laure.
Bonsoir, Marc. Donc oui, je suis allée à la compagnie rencontrer Paul-Emmanuel Audin pour discuter à propos du partenariat du FID sur l'exposition de Murmuraté qui est en ce moment à la compagnie.
Les extraits du périscope de Laure.
Les extraits du périscope.
Paul-Emmanuel Audin, je suis programmateur à la compagnie. Je suis aussi par ailleurs artiste, critique ou chercheur en cinéma. C'est une exposition de Murmuraté avec une intervention de Marie Pélaton. Les photographies de Murmuraté sont porte d'abord sur les friches de la plaine Saint-Denis, mais en particulier sur les habitants, les gens des voyages, avec une partie également sur les SDF de la gare du Nord, qui occupent l'espace malgré des objets antipersonnels.
Car la nouveauté de la politique qui vient, c'est qu'elle ne sera plus une lutte pour la conquête ou le contrôle de l'État, mais une lutte entre l'État et le non-État, l'humanité. Disjonction irrémédiable des singularités quelconques et de l'organisation étatique. Giorgio Agamben.
Toute l'exposition est un peu sur les contraintes des corps. Les gens des voyages ont été déplacés 9 fois, je crois, en 2 ans, depuis que Mire va les voir régulièrement. Et puis, la partie de Marie Pelaton est plutôt sur la flore des friches de la plaine Saint-Denis. Et puis sur les objets trouvés sur ces friches.
La solitude, comme je l'entends, ne signifie pas condition misérable, mais plutôt royauté secrète, incommunicabilité profonde, mais connaissance plus ou moins obscure d'une inattaquable singularité. Jean Genet.
Bah, c'est important que qu'un festival soit en lien avec... avec des lieux culturels de la ville, quoi. Et puis, surtout un festival comme le FID qui est sur le décloisonnement entre la pratique documentaire, l'art contemporain et même la fiction. Donc, il y a quelque chose qui est d'une logique propre, quoi, d'être vu l'activité qu'on fait avec la Galerie OU et puis, voilà, l'association La Compagnie. On est une galerie associative. Hein. Là, il y a eu particulièrement une rencontre sur le travail de Mire Muratet. Nous, on l'a découvert parce que c'est l'éditeur Laurent Covet des éditions Eldent qui est venu nous proposer cette exposition à partir du livre qui est paru chez POL. Alors, ça fait déjà 2 éditeurs, mais il se trouve que ce n'est pas POL qui a porté l'exposition. Mais POL avait fait un livre avec Mire Muratet et des textes de Manuel Joseph. Donc Manuel Joseph est venu lire 2 fois, une fois pour le vernissage, une autre fois pour le printemps de l'art contemporain, un texte qui s'appelle « La sécurité des personnes et des biens », qu'il a lu en entier et qui est le texte publié avec Mire, avec les photos de Mire chez POL. Et puis, voilà, Jean-Pierre Rem connaît bien l'art contemporain, il connaît bien les photographies contemporaines. Il a souvent demandé à... pris certaines images de photographes réputés comme Jean-Luc Moulin pour faire les affiches du FID. Mire Muratet connaît bien Jean-Luc Moulin, quelqu'un qui est souvent rapproché d'ailleurs de Jean-Luc. Jean-Pierre Rem ne connaissait pas et il a tout de suite été extrêmement convaincu, quoi. Enfin, il a défendu tout de suite ce travail qu'il a extrêmement emballé. Et qui est effectivement un travail très ardu, enfin, très engagé dans la pratique de l'image. Et Jean-Pierre Rey m'a aussitôt demandé à Mire de faire un diaporama filmé d'une 15aine de minutes pour le FID, l'édition de cette année, quoi. Donc l'exposition est ouverte tous les jours pendant le FID de 14h à 19h. Elle est à la compagnie jusqu'au 14 juillet, au 19 rue Francis de Pressensé, 13001, Marseille.
C'est le Feed Mag jusqu'à 19h sur Radio Grenouille 88.8 en direct du Théâtre National de Marseille La Criée, où la 23e édition du Feed Marseille va s'achever ce soir par la remise des prix de la compétition internationale, de la compétition premier, de la compétition française et d'autres prix également, et par la visite de la nouvelle ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, qui a longtemps été présidente du Feed. On est en compagnie de Marie-Ève Nadeau, on parle du film de Damien Oudoul, La richesse du loup, un film dans lequel elle joue le personnage de Marie qui doit essayer de comprendre la disparition de l'homme avec qui elle a eu une relation à travers les images et les textes qu'il lui a laissés, beaucoup d'images. Marie-Ève Nadeau, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du titre « La richesse du loup » ?
Mais en fait, le nom Oudoul, de Damien Oudoul, si on repart aux origines, ça veut dire Old Wolf. C'est la richesse du loup. Donc, c'est son nom.
Et donc, c'est une autobiographie ?
Non, non, c'est pas une autobiographie. Pour ça, on est vraiment parti, évidemment, d'éléments qui composent et qui ont composé la vie de Damien et de la mienne. Mais on a fictionné ensuite. On a composé une trame narrative. Donc, bien sûr, il y a des choses qui sont, bon, qui a vraiment vécu, qui envoient à l'hôpital ou bon, des choses comme ça, mais c'est pas du tout un autoportrait ou un film de cinéaste, non.
Mais pourquoi vous avez fictionné? Pourquoi il y a une...
Ben, ça, Damien le dit à quelques reprises, et je vais essayer de bien rapporter son, son propos. Mais en fait, Damien était très, très près d'Alain Cavalier pendant plusieurs années. Ils se rencontraient une fois par mois, ils mangeaient ensemble, donc beaucoup de discussions. Et Damien n'avait pas vraiment apprécié le film Le Filmeur d'Alain Cavalier. Il lui en avait parlé ouvertement. Et c'est suite au Filmeur que Damien s'est dit « Moi, je ne veux pas faire un film où je me retourne complètement sur moi, où je me filme constamment, un film un peu narcissique assumé, complètement assumé, et ce qui est très bien en son genre. » Mais Damien n'avait pas envie de ça. Il avait envie de quelque chose d'autre. Il avait envie de sublimer un peu son histoire personnelle et l'amener ailleurs, la faire passer par d'autres chemins. Et je pense que c'est pour ça qu'il m'a demandé aussi de monter le film avec lui, pour avoir quelqu'un d'extérieur, parce que pour lui, c'était difficile de se détacher de la réalité de ses images. Et c'est pour ça aussi que c'est une voix de femme qui guide le film, tout le film, pour éviter aussi, justement, ce truc, moi, derrière ma caméra, qui filme.
Et du coup, vous êtes le personnage Marie qui regarde ces images et qui essaye de comprendre cette disparition à travers le visionnage de ces images, et la vraie monteuse du film qui a également dû avoir affaire à des fragments, à toutes ces images-là, et pour devoir construire le film, une sorte de mise en abîme, en fait. Ça a été quoi comme expérience?
Ça a été une expérience assez totale, assez entière, parce que bon, Damien avait une centaine d'heures de rush. Alors j'ai visionné et revisionné ces images, donc elles mentaient tout le temps, je les avais tout le temps en tête, même dans mes rêves. Et ensuite, de jouer Marie en plus, c'est sûr que oui, ça s'est mélangé, les deux se sont mélangés, parce que moi-même, en regardant les images, j'ai eu des réactions, inévitablement. Et ces réactions, certaines, ben, sont transposées dans le personnage de Marie. Certains questionnements que Marie a dans le film, je les ai eus aussi.
Et c'est aussi le travail que fait le spectateur devant le film, en fait.
Oui, oui. Nous, c'est ce qu'on espère, que Marie ait en fait une porte pour que le spectateur puisse entrer et lui-même se laisser guider dans cette quête et dans cette découverte.
Alors, il y a eu 8 ans de tournage et 1 an de montage. C'est tout à fait impressionnant. Ces images, à la base, elles étaient tournées dans quelle intention?
Ben, en fait, Damien était allé au Japon, il y a de ça, en 2001, je crois. Et le distributeur qui l'a reçu au Japon, à la fin du séjour, lui a donné une caméra. Et Damien, pour lui, c'était un peu un cadeau empoisonné. Il s'est dit, j'y toucherai jamais. Et ça lui a pris 1 an à ouvrir la boîte. Et 1 an plus tard, bon, il a sorti la caméra et il s'est mis à filmer. Et bon, comme il le dit ici dans les discussions après le film, il n'a jamais filmé de façon... en tout cas, au départ, ce n'était pas prémédité. Je vais faire un film avec ces images. Pas du tout. Il filmait plus pour continuer à vivre, quoi. C'était quelque chose de survie. Et au fil du temps, avec toutes les images accumulées, il y a eu cette idée tranquillement qui a germé du personnage de Marie et de la disparition d'Olaf. Et bon, après, la trame s'est construite.
Justement, comment elle s'est construite? Quelle a été la logique d'association des images, où on voit à la fois pas mal de plans d'animaux, de nature, mais lui au Japon aussi, lui à l'hôpital. Enfin, lui, on le devine. Hein.
Oui, parce qu'on le voit très peu.
On le voit assez peu, c'est comme une ombre, un reflet de temps en temps. Il y a des choses qui sont évoquées, comme le rapport au père, la guerre d'Algérie. Bon, voilà, certaine affection aussi pour le feu.
Tout à fait.
Quelle a été la logique de rapprochement des images ?
Ben, déjà, quand vous parlez d'animaux, Damien est très touché par les animaux, par leur regard, par leur juste état d'être. Donc on aurait pu faire vraiment un film animalier. Et même au départ, il y avait encore plus d'animaux, plus d'insectes. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, il faut couper un peu. Ensuite, ce qui est de l'ordre du récit en tant que tel, de la pyromanie ou de la guerre d'Algérie, ben, c'est des sujets qui touchent Damien profondément. La guerre d'Algérie.
Le rapport père-fils aussi, hein, c'est
le
présent.
Le rapport père-fils, ouais. Mère-fils. Et bon, si vous connaissez un peu sa filmographie, vous voyez que ça traverse un peu toujours ses films. Mais comme je vous disais plus tôt, lorsqu'on vit des choses dans notre enfance ou même dans notre vie d'adulte, des choses profondes, ben, ça nous marque. Et souvent, ça devient un matériau pour la création. Mais après, on a pris certains éléments, justement, de son vécu et on a fictionné autour de ça. Donc, ça a été des points d'assises, disons.
À un moment donné, Marie dit « ça y est, j'ai compris ce que tu as voulu faire, tu m'as donné ton regard ».
Oui. Ouais.
Marie-Ève Nadeau, on vous retrouve dans quelques minutes, le temps d'écouter de nouvelles chroniques dans ce Feedmag. La première de celles qu'on va entendre, c'est Claire, qui cette fois-ci n'a pas réalisé d'interview, mais a eu plutôt envie d'écrire un texte, un papier sur un film. Claire, bonsoir,
oui,
que tu as vu aujourd'hui.
Que j'ai vu, qui s'appelle 74 ou la reconstitution d'une lutte. Donc c'est le premier film de Rania et Raed Rafei qui concourt aussi en compétition internationale. Donc de quoi s'agit-il dans 74, la reconstitution d'une lutte ? Donc la lutte en question, c'est celle des étudiants de l'UAB, donc l'Université américaine de Beyrouth, qui a eu lieu donc en 74. Les étudiants ont décidé d'occuper l'université, à la base pour contester la hausse des frais de scolarité. Et puis ensuite, à ce motif premier, se sont agrégés tout un tas d'autres revendications. En gros, c'était une lutte contre le régime en cours. Donc nous, qu'est-ce qu'on voit dans 74, la reconstitution d'une lutte ? C'est le lieu de l'occupation, c'est-à-dire le bureau du président de l'université et un groupe de 7 activistes militants qui discutent sur les moyens de mettre en œuvre cette lutte, de prendre des décisions et donc de mener peut-être une révolution. Questions qui sont toujours d'actualité, notamment avec les révolutions qu'on vient de vivre dans les États arabes. Donc, qui est légitime pour amener une révolution ? Qui doit décider pour les décisions à prendre dans la lutte ? Mais ce qu'il faut savoir dans 1974, la reconstitution d'une lutte, c'est qu'il y a un dispositif qui est à la base du tournage. C'est que les réalisateurs ont proposé un espèce de jeu de rôle aux acteurs. Donc, le lieu se passe dans un huis clos. Les acteurs ne sont en fait pas des acteurs, mais des activistes militants de gauche du Liban contemporain. Donc en fait, ils sont amenés à jouer leur héritage politique, leur propre héritage politique. Et enfin, il n'y a aucun dialogue écrit. Les réalisateurs ont proposé aux acteurs de jouer des personnages à partir de caractéristiques qu'ils leur ont données et aussi à partir de situations d'appel de ce qui s'est passé en 1974. Et à partir de là, donc, ces militants improvisent les événements de 1974. Donc nous, face à cette situation, face à ce dispositif, qu'est-ce qu'on attend ? Eh bien déjà, il y a deux temps de narration, puisqu'il y a les événements de 1974, mais il y a aussi ces militants de 2012, activistes, qui ne sont pas des acteurs et qui, on attend qu'ils portent un regard, en fait, sur les événements de 1974. Et donc on attend qu'entre ces deux temps de narration, une distance se crée, un regard peut-être, en tout cas que l'épaisseur de l'histoire et les changements de la société puissent émerger. Et peut-être aussi de voir en creux les portraits de ces deux générations et le regard de l'une sur l'autre. Et en fait, c'est pas vraiment ce qu'on voit. Et en fait, on retrouve pas cette subjectivité des acteurs militants de 2012. On voit pas ce regard sur 1974. Et en fait, on dirait que le réalisateur a transformé ces militants qu'il avait choisis en acteurs. Et donc leur enlève la dimension subjective qu'ils auraient pu avoir en rejouant 1974. On reste du coup dans le « ça a été » et on n'est pas du tout dans une distance subjective. Alors, voilà, ça c'est mon avis. Je pense que c'est peut-être en raison aussi d'un dispositif tellement verrouillé qu'à un moment, plus rien ne peut s'échapper et qu'on est voué à rejouer ce qui s'est déjà passé. Mais néanmoins, j'ai trouvé qu'il était quand même intéressant parce qu'il part d'événements qu'on connaît peu, qui se sont passés juste avant la guerre du Liban, un an avant. Et donc je reste sur cette curiosité, pourquoi ne pas être allé jusqu'au bout du dispositif, puisque finalement le cinéma, s'il est question de rejouer des choses qui sont déjà passées, peut très bien le faire, et que si on met en place un dispositif avec un mécanisme d'improvisation, ben peut-être qu'on peut laisser aussi la liberté, enfin qu'on peut laisser des choses jaillir. Peut-être que la nostalgie est plus forte que la révolution.
Merci Claire. On a beaucoup parlé depuis le début de ce feedback. On va faire une pause musicale avec Arthur H. Il sera en concert aux Voix du Gaou, un festival qui commencera d'ici quelques jours, presqu'île du Gaou, là-bas, là, du côté du Brusque. Lui, Arthur H., il sera en concert le 27 juillet.
Comment je peux être? Oh, comment je peux être? Oh, comment je peux être? Oh, comment je peux être? Hey, Saul, comment je peux être plus productif, plus créatif, comme Basquiat, man?
Je sais pas. Drink more.
Comment je peux être? Smoke more. Oh, comment je peux être?
Je sais pas.
Oh, comment je peux être? Oh, comment je peux être? Le chercheur d'or a trouvé l'or. Je mange la terre rouge. Je bois l'asphalte noir. Et je crache sur la toile des signes préhistoriques qui éblouissent le futur. Je suis le roi courroucé, je suis l'amoureux blessé. Ma couronne de diamant, ma couronne de feu, ma couronne de sang. Je la dépose tendrement sur ton sexe offert. Puis je la jette dans la gueule de la lumière. Oh, je suis Jean-Michel Basquiat, je suis Jimi Hendrix, je suis Charlie Parker, je suis une superstar, je suis une méga superstar. Ma navette spatiale explose en plein vol. Oh, Black Moon, narcotique, Blue Balloon, cher Mr. Ogun, créateur du Big Bang. J'arrache à Picasso son pinceau sexuel, et avec ce pinceau sexuel, je repeins le monde, et le monde n'a plus la même couleur. Je repeins le monde, et le monde n'a plus la même couleur. Yeah.
Oh,
C'est le Feedmag jusqu'à 19h sur Radio Grenouille. Philippe Bérard est programmateur de cinéma, Bernard Favier est cinéfils. Ensemble, ils font Ciné-B. Vous avez pu entendre Ciné-B tous les premiers et troisièmes dimanches du mois à 10h sur les 3-8 toute cette année. Ils nous ont accompagnés tout au long de ces Feedmag pour nous dire ce qu'ils avaient vu de quelques sélections de ce festival. Et ce soir, je crois qu'ils vont nous faire une synthèse un peu de tout ce qu'ils ont vu.
Bernard, la synthèse, ça te dit la synthèse ? Alors d'abord, nous, ce qu'on s'est obligé à voir, c'est la compétition internationale. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans ce festival ? On a vu quand même beaucoup de films autour de la folie, autour des hôpitaux, autour de l'enfermement. Donc, comme si c'était un peu la folie qui, en temps de crise, arrivait comme ça, je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Par contre, dans nos choix, nous sommes amusés à être de bons spectateurs. Et en bon spectateur, on a fait un petit peu notre choix de films qu'on a envie de défendre, tout simplement pour que d'autres personnes les voient. Donc le premier film, c'est Don Hospital, sur lequel on revient, hein, de Nikolaos Gerhalter. Pour nous, je pense que c'est le film qui est le plus. Je ne sais pas si on peut dire ça ici, mais c'est peut-être le film le plus cinéma.
On peut dire ça, oui, hein, mais à partir d'un point de vue de départ qui est celui d'un documentaire qui s'attaque aussi à des questions qui ne sont pas simplement celles d'une pédagogie non directive, mais bien réelle, parce que le documentaire, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours une pédagogie souterraine qui n'est pas affirmée, tamponnée. Et je veux pour preuve que si on analyse les plans des documentaires, ils sont toujours beaucoup plus longs que ceux des films de fiction. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, le documentariste veut faire passer ce qu'il a envie de nous dire. Et ces moments de creux sont là pour que ça infuse et qu'on réfléchisse à ce qui est en train de se passer. Donc, première remarque, mais je trouve que Danaos Hospital est effectivement celui qui, dans sa dramaturgie documentaire, et dans sa fiction, est le film qui se rapproche le plus, pour moi, de ce qu'est un film documentaire qui n'a plus à s'appeler documentaire, mais qui s'appelle simplement un film.
Voilà. Dioramas de Gonzalo Castro, qui est aussi un film qu'on a adoré.
Alors là, c'est autre chose, c'est qu'on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus subjectif, à savoir cette histoire d'école de danse avec ces deux personnages féminins qui sont liés par une histoire d'amour qui est développée pendant la quasi-totalité du film. Et là, c'est compliqué parce que c'est pas du documentaire au sens où on va vous apprendre quelque chose. On va simplement vous apprendre quelque chose du cinéma qui peut, simplement par la description et l'observation de ce qu'on a à vous montrer, va vous montrer l'histoire des personnes qui sont devant vous. Et dans des moments qui sont tout à fait quotidiens. C'est-à-dire faire une robe avec un tissu, on s'enroule, on met des épingles, ça pique. Après, on nage. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ?
Ce qu'il y a surtout, c'est qu'on est face à des séquences de travail qui sont liées à l'approche, à la promiscuité, à quelque chose de très intime.
Voilà, c'est pas la subjectivité, en fait, tu as raison, c'est l'intimité.
Voilà.
C'est un coup de maître parce
voilà.
que à faire du documentaire en y mettant de l'intimité comme c'est le cas dans ce film, il y a quelque chose de vraiment très très fort qui arrive à se glisser dans ce film. Et là, par contre, la pédagogie non directive n'existe pas. Il n'y a pas de pédagogie non directive parce que c'est moi, je, le film. Alors que dans notre hôpital, c'est malgré tout, il y a une pédagogie, mais qui est une pédagogie artistique. Donc ça élimine toute espèce de « vous avez bien vu que quand on opère quelqu'un, on fait ça, on se lave les mains ».
Ça élimine tous les trucs pénibles du documentaire, quoi.
Voilà. Voilà, mais oui, exactement. C'est-à-dire le moment où on te dit tu es dans la peau de celui qui est filmé. Ça, c'est en général raté.
Oui, et puis c'est surtout, encore une fois cette intimité dans le travail qui est la même dans les séquences amoureuses. Là, waouh, arriver à ça en cinéma, c'est une très jolie prouesse. Jajouka que moi je n'ai pas vu, Jajouka.
Non mais Jajouka c'est la compétition française, mais tu as oublié Babylone. Mais Jajouka, moi je le trouve aussi très, très dans la course pour la compétition, parce que c'est un film pareil là, hein, qui joue la carte du cinéma tout de suite. Il y a pas de démonstration, il n'y a pas d'explication, on joue la carte du cinéma. Et le spectateur n'est pas pris par la main, il est obligé de se débrouiller avec ce qu'il voit et essayer de faire appel à une sensibilité exacerbée pour arriver à se glisser dans ce qui se passe et à comprendre ce qu'on est en train de lui raconter, à savoir une danse qui remonte à la mythologie grecque pratiquement et qui se passe au Maroc, avec de la musique issue aussi de l'Antiquité. Donc ça, c'est un mélange un peu ébouriffant, mais ça se passe vraiment très 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 bien. Voilà, il y a ça. Et puis, on a oublié de citer Babylone, parce que là, dans le brouillard de ce film, dans l'espèce de choses très compliquées...
Très vaste. Hein.
Très vaste, ce que tu dis, quand c'est un film somme, c'est-à-dire qui additionne, 250 000 personnes qui sont dans un camp et qui sont hébergées, qu'il faut arriver à nourrir, à héberger, et après à rapatrier chez eux. Je crois qu'il y a une prouesse, il y a un enjeu qui a été tenu, même si effectivement le montage aurait peut-être être un peu plus resserré, mais je trouve que le pari est gagné.
Alors juste un dernier petit mot, il y a deux films qu'on n'a pas pu voir, qui sont White Epilepsy de Philippe Grandrieux, Chronique oblige, et Montémor d'Ignazi Duarte. Une dernière chose, par hasard, on est tombé sur un petit film premier, Song Song, de Gwendal Sartre. Donc juste pour dire que il est bien que ce jeune monstre filme un vieux monstre, et nous espérons qu'il devienne un ogre, et nous le félicitons.
Merci beaucoup Cinébé donc pour ces pronostics de prix ce soir pour cette 23e édition du Film Marseille. On verra si les jurys ont partagé vos avis sur ces films. Diagonale d'écran, c'est une chronique réalisée par Julien Kirsch, une chronique aussi qui nous accompagne depuis le mercredi 4 juillet dernier, la date de début de cette 23e édition du Film Marseille. Diagonale d'écran, c'est une série d'entretiens avec les programmateurs des diverses sélections du Film Marseille. Et nous retrouvons aujourd'hui Fabienne Maurice, coordinatrice de la programmation et co-directrice de FeedLab, qui nous dessine les contours métaphysique de Nos Formes, un film de Tsai Ming-liang dont Thomas Poveda a eu l'occasion de parler il y a quelques jours. Voilà ce que nous en dit Fabienne Maurice.
Bonjour, Fabienne Maurice, je travaille à la programmation du Film Marseille. J'avais envie de vous parler de Nos Formes, le dernier film de Tsai Ming-liang, qui est un film court déjà, d'une durée de 20 minutes, qui prend comme point de départ la question de l'inscription d'un personnage dans une foule, dans une ville. En l'occurrence, il a tourné à Taïwan, avec une première partie de film où un moine, qui est son acteur fétiche, Li Kuan-chen, qu'on retrouve dans nombre de ses films, qui est en fait un peu à l'image du double de Tsai Ming-liang, et qui évolue dans une foule dense, comme on imagine dans les pays asiatiques. Et lui, ce corps fragile, évanescent, vêtu d'une robe rouge, déambule, mais pas déambule, enfin il y a une question de rythme et de vitesse, parce qu'il est dans une recherche de chorégraphie, enfin moins de chorégraphie que de mouvement, et d'un déplacement extrêmement lent, comme pour indiquer le décalage entre l'environnement et la foule, la grandeur, et ce qui se passe quand on est seul dans une grande ville. Et au fur et à mesure du récit, si on peut dire qu'il y a un récit, on va voir Li Kuan-chen évoluer dans un espace... feutré, blanc, une espèce de long tunnel. Ce moine qui commence à se détacher, enfin après il y aurait plein de lectures possibles sur le film, mais en tout cas il y a des choses qui reviennent sur les questions de métaphysique, comment dans les traces quotidiennes du réel, comment rendre visible ce qui serait de l'ordre de l'invisible, à savoir la... Comment trouver des traces de l'existence de Dieu, ou en tout cas de quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende. Et donc Li Kangchen continue cette déambulation dans ce lieu donc feutré pour arriver dans un long couloir blanc qui, en tout cas quand je l'ai vu, m'a fait penser au White Cube, et donc toutes les questions que peuvent se poser les plasticiens quand ils occupent un lieu et comment l'œuvre s'inscrit dans ce lieu. Qu'ajouter d'autre ? Je vais pas évoquer la fin parce que c'est... Il faut pas l'évoquer. Donc... En même temps, la fin, c'est intéressant, mais... Faudrait pas que je dise que c'est la fin, en fait. Et de façon inattendue, incongrue, en fait, en même temps. Enfin... Pas incongrue, c'est pas le bon mot, mais... Décalée. Il y a une chanson de Nina Simone, Feeling Good, qui intervient. Nos formes fait partie d'un travail que Tsai a initié donc avec Li Kangchen, et où il souhaite en fait travailler et poursuivre ce tournage de film court dans une ville, enfin, dans une idée de répétition. Pas forcément de forme, mais en tout cas de structure, avec Li Kangchen qui est donc vêtu comme un moine, cheveux rasés, et qui se meut dans un espace urbain. Donc nos formes, c'est le premier volet d'une série qu'il a initiée, Walker étant le deuxième volet, et d'autres sont en projet. Voilà, donc c'était Li Kangchen dans un film de Tsai Ming-yang intitulé No Form. Fabienne Maurice. Fabienne Maurice, programmation du film. Voilà.
Voilà, la diagonale d'écran signée Julien Kirsch. Marie-Ève Nadeau en parlait tout à l'heure du reste du monde, le film de Damien Oudoul qui va être diffusé sur Arte en décembre prochain et qui connaîtra ensuite une sortie salle. Est-ce qu'il y a des projets de diffusion ou d'édition DVD ou de sortie salle pour La Richesse du Loup ?
Bah pour l'instant, La Richesse du Loup, là, c'est surtout les festivals. Mais oui, ça va être, c'est le pacte, comme pour le reste du monde qui distribue La Richesse du Loup. Alors, oui, on espère évidemment une sortie salle.
Alors là, on a parlé de votre personnage de Marie et de votre travail de montage sur ce film, La Richesse du Loup, mais vous êtes aussi réalisatrice vous-même. Vous avez un projet en ce moment en cours de documentaire.
Oui, justement, Damien et moi, on travaille beaucoup ensemble. Et là, le documentaire que je suis en train de réaliser, c'est Déo Film, la compagnie de production de Damien qu'il produit. Et en fait, c'est assez drôle parce que le projet a débuté sur le film Le reste du monde, dans lequel jouait un professeur pour enfants sourds, un professeur d'histoire. Et je connaissais pas énormément ce milieu-là, qui est vraiment un milieu à part, une société à part avec ses codes. Et j'ai appris un peu la LSF, la langue des signes française, et j'ai rencontré des gens qui m'ont touchée profondément. Et donc, j'ai décidé de continuer mes recherches. Et là, je fais un documentaire sur les enfants entendants qui naissent avec des parents sourds, donc les enfants de sourds. Et je suis deux familles, deux générations différentes, une à Montréal, une à Montpellier. Et c'est un projet qui me passionne profondément.
Et vous pensez que c'est un film qui pourra être vu quand, alors?
Moi, je prévois le terminer. J'aimerais bien le terminer fin 2012. Alors, après, ça va dépendre s'il est pris dans des festivals et on verra.
Marie-Ève Nadeau, vous allez assister à la soirée de clôture ce soir?
Oui, probablement, oui.
Vous espérez un prix pour La richesse du loup?
Je sais pas, espérer un prix, c'est sûr que c'est toujours agréable, j'imagine, de recevoir un prix, mais bon, Damien et moi, on a fait le travail qu'on devait faire. Alors après, si ça peut toucher quelques personnes, je sais que Damien, ça c'est quelque chose qui le dérange un peu, le fait qu'il n'y a jamais un énorme public pour ces films. Mais bon, au bout du compte, il y a 3, 4, 5, 20 personnes qui sont profondément émues. Comme hier, moi, j'ai rencontré deux jeunes femmes qui m'ont parlé du film d'une façon tellement belle. Et tu te dis, si c'est juste pour ça, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que ça les a marquées. Et tu sens que, ça fait un chemin à l'intérieur d'elle. Alors, c'est ce qu'on espère plus qu'un prix.
Merci beaucoup, Marie-Ève Nadeau, d'avoir passé ce moment avec nous. On s'approche de la fin de ce FeedMag. Mais avant, comme il est de tradition, bizarrement, Thomas se retrouve en fin d'émission pour nous parler de cinéma asiatique, de films asiatiques. Et c'est le sixième qu'il a vu ce soir, dont il va nous parler, et qui s'appelle The Great Rabbit, un film japonais.
Un court-métrage d'animation d'Atsushi Wada qui a été réalisé en 2012 et présenté dans le cadre des Sentiers. Cette programmation qui a été pensée pour être visible par les enfants, notamment pendant le feed. Et c'est un court-métrage qui a gagné l'Ours d'argent à Berlin en février dernier dans la catégorie court-métrage justement. Alors le film commence par une citation de Wada lui-même, « Croire dans le lapin, c'est croire à tout. Ne pas y croire, c'est ne croire en rien. » On va ensuite suivre, le tout dessiné d'un trait assez fin, mais sans qu'il soit forcément remarquable, un petit garçon qui transporte une sorte d'œuf géant. Et alors qu'il avance, une main se pose sur l'œuf, puis il glisse l'œuf sous son t-shirt avant de continuer sa marche. À ce moment-là, une belette vient se frotter contre sa jambe à la manière d'un chat, avant qu'un oiseau ne passe rapidement pour lui voler son t-shirt, l'œuf roulant au loin par la même occasion. Entre-temps, on peut voir le plan d'un lapin posé sur une sorte d'autel religieux qui visiblement mâche quelque chose, le tout avec en fond sonore des murmures volontairement incompréhensibles. Bref, je ne vais pas raconter la suite, mais vous l'aurez compris, Atsushi Wada travaille dans le surréalisme le plus total. Ce qu'il faut juste rajouter pour comprendre, c'est qu'il y a en fait plein d'enfants identiques qui font la queue pour accomplir exactement les mêmes gestes que le premier. Et à partir de là, on peut se dire que le réalisateur a voulu dépeindre une métaphore du pouvoir et de la croyance aveugle. Déjà, avec cette idée de perpétuel recommencement des actions, on a en tête l'image un peu du troupeau de moutons où tout le monde fait la même chose sans vraiment se demander pourquoi. Et dans cette succession de gestes, on pourrait y voir une allégorie des rituels religieux, puisqu'ici, tout converge vers le grand lapin, qui apparaît régulièrement dans le film. C'est assez drôle à dire comme ça, pour bien montrer que c'est lui la finalité de tout ce qui se trame pendant le film. Et cette thématique du pouvoir et de la croyance aveugle, elle est renforcée, à mon sens, par le choix des animaux dans le film. La belette, elle pourrait représenter la liberté, le libre-arbitre. C'est le seul personnage qui évolue un peu comme il veut, au contraire des enfants et du lapin. Et le lapin, lui, c'est une créature qui paraît totalement inoffensive, dont on va bien sûr pas forcément se méfier. Et pourtant, ce que nous montre Atsushi Wada, c'est à quel point les apparences peuvent être trompeuses, puisqu'à la fin du film, on comprend ce que mâche ce grand lapin. On voit en effet l'animal sur un écran de télévision, métaphore assez évidente du pouvoir des médias dont il est aussi question là. Et l'enfant, enfin l'un des enfants, en tout cas, rembobine l'image, qui est en fait une vidéo enregistrée donc, jusqu'à ce que l'on voit deux mains pousser la belette dans la gueule du lapin. Le lapin est en train de manger la belette. Donc on a donc, pour conclure avec The Great Rabbit, une jolie allégorie sur l'obéissance aveugle avec une mise en garde sur ce que l'on nous montre et que l'on a peut-être trop tendance à apprendre tel quel sans forcément penser à ce qu'il y a derrière.
Merci beaucoup Thomas. Ah, Bernard Favier applaudit dès demain. On est à la fin de cette émission et de cette série d'émissions donc commencée le mercredi dernier qui s'achève ce soir. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, cérémonie de clôture avec distribution des prix, projection d'un film sud-américain Et certainement la visite de la ministre de la Culture à 21h30, ancienne présidente du FID Marseille. Alors merci à Lise et Ourida du FID pour leur accueil et leur aide pour organiser ces différents magazines. Aux chroniqueuses et chroniqueurs de la Grenouille qui ont travaillé d'arrache-pied pour vous parler des films tous les soirs. Donc Laure, Claire, Tulia, Julien, Thomas, Philippe et Bernard. Aux techniciens, Adrien, Djilali, Yann et Sébastien, ce soir, qui va nous aider à charger le matériel. À suivre sur les 3-8, une rediffusion à 19h du Cotton Club d'octobre 2011. Et pour terminer, une chanson qui est devenue, en fait, un peu bizarrement, le tube de la Grenouille au FID Marseille. Donc, spéciale dédicace quand même à Adrien et Laure pour, qui ont colporté cette chanson dans nos têtes pendant quasiment les 6 jours de ce FID Marseille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt sur les 3-8. Vous pouvez réécouter toutes les émissions sur le site de Radio Grenouille, radiogrenouille.com.
Nel momento.
Un cinéma qui toujours innove, qui expérimente et qui soit le reflet de son temps.
City as a character within the movie. Now would it
say? C'est vous tournez très vite, je crois.
En général, assez vite. Oui. Mais moi, je trouve pas. Je trouve que les autres ils tournent assez lentement.
Cinéma, cinéma, oui, je sens, je sens que je suis, je